Temps, contre-temps. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur Canal Académie. Sans doute êtes-vous amateur de mythologie pour avoir choisi cette émission consacrée au mythe de Prométhée pour évoquer ce héros, ce géant et les origines de ce mythe. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Pierre Mahé de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, où il a été élu en 2001 et dont le champ d'étude couvre en particulier le Caucase, mais pas uniquement. Monsieur Mahé, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être revenu dans le studio de Canal Académie. Vous êtes déjà venu plusieurs fois. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, 4e section, chaire de philologie et historiographie du Caucase chrétien. Et vous avez été chef de la mission archéologique française à Ani. C'est une ville située à l'extrême fond de la Turquie, si j'ai bien compris.
Oui, juste sur la frontière arménienne. Et je dois dire que la Géorgie n'est pas loin non plus.
Voilà, donc là, c'est vraiment votre territoire. Géorgie, Arménie, Caucase, Turquie
le
orientale.
Le Caucase est un peu plus
au
nord.
Oui, c'est ça. En tout cas, vous avez consacré de nombreux ouvrages à ces régions et à ces pays et nous allons évidemment plutôt nous situer vers le Caucase pour parler de Prométhée qui est évoqué par des auteurs grecs fameux, Hésiode dans la Théogonie, Eschyle dans Prométhée enchaîné, Platon dans le Protagoras, Apollodore aussi, je crois, j'en oublie peut-être, certainement. Alors ma première question ce sera, Monsieur Mahé, est-ce que ce mythe de Prométhée est né en Grèce ou est-ce qu'il est beaucoup plus ancien que le mythe grec?
Alors, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est que Prométhée est enchaîné sur le Caucase. Il y a même des gens qui savent le nom de la montagne, on dit en Géorgie l'Elbrouz, le Gergeti, Eschyle. Donc, le Prométhée enchaîné, la tragédie que nous avons conservée, les précisions géographiques ne sont pas aussi claires que cela. Mais il nous dit du côté des sites, mais c'est pas non plus incompatible avec le Caucase. Mais la tragédie d'Eschyle faisait partie d'une trilogie liée. C'est-à-dire qu'on nous racontait comment Prométhée avait d'abord été enchaîné, en principe pour toujours, mais en fait pardonné par Zeus et délivré par Héraclès. Et il se trouve que les fragments que nous avons conservés de Prométhée délivré situent cela précisément dans le Caucase. Et nous avons encore un autre témoignage qui est bien plus effrayant et bien plus amusant, c'est celui des Argonautes. Vous savez, ceux qui vont chercher la toison d'or, qui vont en Géorgie, donc ils vont être obligés de passer les détroits où il y a ces terribles Symplégades qui se referment comme des portillons automatiques dès qu'un bateau essaye de passer. Et une fois qu'ils ont passé cet obstacle, ils entendent un très grand... Ils voient passer au-dessus d'eux un aigle qui parcourent à toute vitesse la mer Noire, et après ça, ils entendent un cri horrible, et ils comprennent que c'est l'aigle qui est allé manger le foie de Prométhée, comme il le fait chaque jour ou chaque semaine, ça dépend des variantes du mythe. Donc, il y a un point d'attache géographique intéressant dans le Caucase, et ça devrait nous laisser réfléchir, parce que, au fond, le lieu normal de châtiment d'un réprouvé, c'est les enfers. S'il est enchaîné sur une montagne du Caucase, c'est qu'il a peut-être quelques rapports avec la région. Eh bien, ces rapports ont été pendant très longtemps ignorés, mais on les a découverts au XIXe siècle quand on a commencé à faire de l'ethnologie caucasienne. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y a toute une série de titans enchaînés dans le Caucase. C'est-à-dire que chacune, vous savez que le Caucase a beaucoup de familles linguistiques, eh bien, une très grande partie de ces langues, c'est-à-dire toutes les langues du sud du Caucase, toutes les langues du nord-ouest, du côté des Tcherkesses, et pas les langues du nord-est, hein, et puis également les Ossètes qui sont au centre, racontent l'histoire d'un de ces personnage qui a dévié le dieu suprême et qui a fini par être enchaîné sur le Caucase. Alors, en fait, on sait que les Grecs ont eu des relations assez précoces avec la mer Noire. Vous voyez que très longtemps, on croyait qu'il y avait un problème technique qui les en empêchait. C'est-à-dire que on sait que pour passer les détroits, il faut avoir une très grande force de poussée. C'est-à-dire il faut avoir une trière à 50 rameurs. Sinon, la force n'est pas assez grande. Bien, la pintée Cantor, puisque comme on l'appelle, on croyait qu'elle avait été inventée au 8e siècle avant notre ère. En réalité, elle est beaucoup plus ancienne. Elle remonte à la civilisation mycénienne et il est donc très probable que dès le 11e siècle avant notre ère, c'est-à-dire au moment où avant les champs homériques, les Grecs connaissaient déjà le littoral de la mer Noire et pouvaient avoir entendu parler de l'histoire de Prométhée.
Voilà, hein, de géants enchaînés.
Voilà. Alors, bien entendu, la légende grecque telle que nous la connaissons est très grecque. Elle est, l'interprétation morale qu'ils en tirent est tout à fait édifiante. Prométhée, c'est avant tout celui qui, comme l'indique son nom, pense d'abord. Prométhée,
pense et
il a un frère idiot.
Oui.
Un frère idiot qui s'appelle Épiméthée et qui pense après, et toujours trop tard. Donc ça, c'est évidemment des choses typiques de la pensée grecque. Mais le scénario de ce héros enchaîné sur une montagne du Caucase, probablement, les Grecs l'ont reçu des peuples qu'ils ont connus très tôt et ils l'ont, en quelque sorte, domestiqué, assimilé à leur propre culture. C'est une opinion, en tout cas, possible.
Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les légendes que des peuples que vous avez étudiés, est-ce qu'on retrouve justement facilement cette histoire d'un géant enchaîné?
Alors, tout dépend où vous faites des enquêtes. Si vous êtes au sud du Caucase, c'est-à-dire en Arménie, en Géorgie, peut-être aussi en République d'Ossétie, soit du nord, soit du sud, là, vous tombez sur des régions qui ont été quand même urbanisées, d'une certaine façon, par l'Union soviétique. Alors, ça veut dire qu'un certain nombre de légendes ne sont plus vraiment vivantes. En revanche, elles ont été notées par des témoins jusque dans les années 20 du XXe siècle, jusque dans les années 1920. Il y avait encore des gens qui ne savaient ni lire ni écrire et qui connaissaient ces légendes par cœur. Et les soviétiques les ont notés, les ont publiés. Et il est probable que si aujourd'hui on se rendait dans certaines régions de haute montagne, alors de la chaîne du Grand Caucase, où il y a encore des cultures orales vivantes, on trouverait des gens pour raconter ces histoires. Et sans les avoir lues nulle part, en les connaissant uniquement par tradition orale.
Alors, justement, on évoque souvent cet épisode par rapport à Prométhée qui est, il est enchaîné sur une montagne et un aigle lui dévore le foie. Mais c'est oublier un peu aussi les autres épisodes. Justement, la ruse qu'il fait vis-à-vis de Zeus, alors que vous dites être plutôt une version grecque, c'est-à-dire cette histoire des os dont il fait un paquet très vilain et qu'il propose à Zeus, et la chair qui, au contraire, est mise dans un paquet affreux.
Oui, enfin, oui, voilà. C'est-à-dire il partage un bœuf d'une façon tout à fait intéressante en camouflant la graisse et les os sous une peau appétissante et en laissant un petit peu de graisse déborder pour appâter Zeus, et la viande, c'est-à-dire toute la partie consommable, il l'a mise soigneusement à part, mais en la dissimulant également d'une autre façon. Zeus est complètement leurré par cette présentation et va choisir la plus mauvaise part pour le festin auquel Prométhée l'a convié. Et comme Prométhée, à cette époque, s'est déjà rendu coupable du crime principal qui lui est reproché, c'est-à-dire d'avoir dérobé un tout petit peu de feu sur le char du soleil qu'il a enveloppé dans une tige de roseau et qu'il a ensuite rapporté sur terre pour la donner aux hommes, eh bien, Zeus estime que la coupe est pleine et qu'il va mériter d'être puni.
Il y a
toute cette première partie qui est l'ingéniosité de Prométhée pour les hommes et son défi à Zeus. Deuxième et premier épisode, ça serait l'ingéniosité. Deuxième épisode, son défi à Zeus. Et puis troisième épisode, qui est évidemment le châtiment. Et enfin, cette conclusion à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, qui est la délivrance de Prométhée par Héraclès.
C'est l'un de ses travaux, l'un des 12 travaux d'Hercule, en effet. Mais on peut peut-être aussi parler de l'épisode où, parce qu'il est affligé d'un frère qui n'est pas très futé, et lequel frère ouvre la porte à Pandora, qui va être donc la boîte de Pandore qui va donner tous les maux à l'humanité. Ça aussi, c'est un épisode qui appartient au mythe.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça fait partie, c'est le premier volet de la vengeance de Zeus. C'est-à-dire que Zeus décide de punir à la fois Prométhée, le coupable principal, mais aussi les protégés de Prométhée qui sont les hommes. Et dans ce temps-là, les hommes sont uniquement masculins. Il n'y a pas encore de femmes à cette époque. Donc Zeus charge Héphaïstos de fabriquer une créature féminine qui est évidemment destinée à tromper et à piéger les hommes. Et en effet, Pandora ouvre la boîte où sont tous les maux par curiosité. Et alors l'humanité, désormais, va être affligée de tous les maux que la femme lui a apportés. Tout cet aspect sur l'astuce de Prométhée est généralement absent dans la légende caucasienne. C'est-à-dire que dans la légende caucasienne, les deux qualités de Prométhée sont la force et la vitesse. Et il n'est pas intelligent, mais il a à côté de lui des frères humains. Et ce sont les frères humains qui sont intelligents à sa place. Et donc, malgré tout, l'aspect intellectuel que les Grecs ont naturellement tout à fait souligné, élaboré, est malgré tout présent dans la légende caucasienne, mais attribué à l'humanité et non pas à Prométhée.
Hein. C'est une différence notable. Oui.
Une différence notable, mais dans la légende grecque, il faut bien dire que c'est Prométhée qui a créé les hommes, oui, qui a fabriqué les hommes au début avec de la terre, et donc qui est responsable de leur existence.
J'ai vu aussi un académicien des inscriptions et belles-lettres, un de vos prédécesseurs, qui s'est penché sur l'histoire de l'oiseau qui dévore le foie de Prométhée, parce que, évidemment, avec le côté grec, on croit que c'est l'aigle, l'oiseau royal de Zeus, mais quelquefois, il y a d'autres sortes d'oiseaux. Est-ce que dans le Caucase, justement, il y a une différence sur cette notion d'oiseau qui serait dévoreur ?
Il y a des choses très compliquées, très étranges dans le Caucase. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est que Hermès, qui est chargé de punir Prométhée et de lui faire peur, c'est-à-dire de lui annoncer tout ce qui va lui arriver, en parlant de l'aigle, l'appelle ce chien de Zeus, ou ce chien ailé de Zeus. C'est-à-dire que c'est un aigle, sans aucun doute, c'est comme ça qu'on le représente dans l'art et que les Grecs le représentaient. Mais d'un autre côté, c'est un aigle chien. Ça peut être un mot d'injure, mais enfin, voilà. Mais il faut penser aussi à d'autres créatures fantastiques, par exemple comme les griffons, qui peuvent être des animaux mixtes entre des quadrupèdes ou bien des aigles. Et alors, cette monstruosité est attestée dans la légende, par exemple, géorgienne, dans laquelle celui qui partage la captivité, le héros s'appelle Amirani, le héros qui ressemble à
Amirani.
Amirani, c'est son chien, mais c'est un chien très particulier parce que il est né aigle, ce chien. C'est-à-dire que il a été conçu, pondu, couvé par des aigles. Mais comme sa mère le jugeait trop laid, elle l'a jeté du nid et il est tombé d'une très grande hauteur jusqu'à terre. Et au moment où il tombait à terre, quatre pattes lui sont poussées. Mais il a gardé ses ailes. Alors c'est un chien extraordinaire à la chasse parce qu'il court derrière les animaux, mais tout à coup il s'envole et il fond sur eux comme un aigle. C'est donc un chien aigle. Et il est beaucoup plus amical que l'aigle de la légende grecque parce qu'il essaye de ronger la chaîne de Prométhée. Et il y arrive au bout d'une année, mais après il commet une bêtise. Et à cause de cette bêtise, il mange quelque chose ou il fait une bêtise, ce chien. Et à cause de lui, la chaîne retrouve sa forme primitive. Donc il est en fait, sans le vouloir, responsable de la captivité de Prométhée et même cause que cette captivité est perpétuelle.
Il laisse un espoir et puis l'espoir est déçu.
Alors, l'espoir est déçu.
J'aurais voulu aussi, M. Maï, que vous nous parliez d'un historien du Caucase, un linguiste, je ne sais pas si vous avez connu ce monsieur, Georges Charachidzé, qui lui peut-être a étudié aussi ces légendes du Caucase.
Alors en effet, Georges Charachidzé, s'il était là,
il était correspondant
devrait
naturellement dans votre
être la personne qui parlerait de ces matières avec le plus d'autorité. Car il a écrit en 1986 un livre qui s'appelle « Prométhée ou le Caucase ». C'est-à-dire qu'il considère, il sous-entend par ce titre que la légende du titan enchaîné est tellement bien représentée dans le Caucase, aussi bien chez les peuples purement autochtones, hein, par exemple les Aprases, les Géorgiens, les Tcherkesses, que chez les peuples qui sont venus de l'extérieur, par exemple les Arméniens, les Ossètes ou d'autres. Donc, c'est un emblème, en quelque sorte, de l'idée caucasienne. Alors, Jean Charachizet avait une connaissance très étendue de toute cette matière. Il avait une explication différente de la mienne en ce qui concerne les rapports avec le mythe grec. Il disait que, en fait, les peuples qui étaient en Grèce avant l'arrivée des Grecs étaient probablement des peuples pré-indo-européens qui avaient un lien avec les peuples du Caucase, et que les Grecs ont reçu, disons, cela comme un substrat dans leur propre pays, sans connaître directement les Caucasiens. Moi, je pense que ça n'est pas l'hypothèse la plus simple.
Et quelle était l'idée en ce sens de Georges Dumézil, qui a d'ailleurs préfacé, j'ai vu ce livre, Prométhée ou le Caucase? Est-ce que M. Dumézil avait travaillé sur ces questions-là?
Alors, M. Dumézil connaissait, Georges Dumézil connaissait parfaitement les langues du Caucase et spécialement les langues du Nord-Ouest. Il avait travaillé l'oubir, il avait travaillé le tcherkesse, enfin toutes ces familles de langues. Et donc, forcément, il connaissait la légende. Mais il y a une sorte de chose assez curieuse, c'est que Georges Dumézil, sur le plan caucasien, est resté purement linguiste. Et il n'a déployé son goût pour la mythologie comparée que dans le domaine indo-européen. C'est donc en somme, à son disciple le plus proche en la matière, qui était Georges Charachidzé, qu'il avait délégué le soin d'analyser ces mythes, ce que Georges Charachidzé a fait d'une façon tout à fait remarquable et qui reste exemplaire.
Merci de nous avoir évoqué ces deux grandes figures de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et pour M. Dumézil aussi de l'Académie française. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant avec deux élèves de l'école Coronin qui souhaitent vous poser une question.
La prison est-elle le bon endroit pour 25% de détenus qui présentent de graves troubles psychiatriques? Faut-il développer le nombre de places en prison ou celles en psychiatrie? Canal Academy vous propose un échange autour de cette question qui fait débat sur la récidive des anciens prisonniers, sur les prisons engorgées et sur les hôpitaux trop peu équipés. Mise au point sur la santé mentale des prisonniers, une émission éclairage en compagnie de Marc Chantilini et Jean-Pierre Ollier, à écouter dès maintenant sur Canal Academy.
Nous retournons dans notre studio où nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Mahé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors, avec nous dans ce studio, deux élèves de l'école Coronin, qui est une école préparatoire aux grandes écoles d'art et qui ont particulièrement travaillé sur le mythe de Prométhée dans l'art, justement. Ils ont examiné de près certains tableaux, notamment celui de Gustave Moreau. Et puis, ils se sont penchés aussi sur la musique avec Schubert, Beethoven, Liszt, Scriabine. Le mythe de Prométhée a inspiré pas mal de musiciens. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur Mahé, on va demander d'abord à Randolph Durieux de vous poser une première question. Bonjour, Randolph.
Bonjour à vous. Donc, je souhaitais vous demander, le mythe a-t-il été beaucoup représenté en art ou en peinture?
Alors, très certainement, c'est un mythe tellement intéressant qui frappe l'imagination que les artistes de toutes les époques s'y sont intéressés, notamment dans la peinture moderne. Et justement, vous parlez à l'instant de Gustave Moreau, on a des représentations du mythe. Hein, il me semble que dans la toile de Gustave Moreau, qui représente le supplice avec l'aigle qui est en train de ronger.
Il ressemble plutôt à un vautour. Hein,
le foie, oui, ou un condor, je ne sais pas exactement.
Condor, voilà.
C'est un oiseau assez inquiétant. Ce qui est intéressant, c'est que Prométhée est attaché à une colonne. Ça correspond à une des variantes de la légende. Mais d'un autre côté, cette colonne est sur une haute montagne. On devine que c'est l'Elbrouz ou bien quelques montagnes du Caucase. Et ce qui n'apparaît pas et qui est mentionné par un certain nombre de mythes, de variantes de la légende, c'est que normalement, il est dans une caverne. Il est à la fois en haut d'une montagne, attaché à une colonne, et à l'intérieur d'une caverne. Et c'est Hermès qui explique en disant que tu auras une roche courbe au-dessus de ta tête, c'est-à-dire le toit d'une caverne. Et Jean-Pierre Vernant et d'autres interprètes avaient pensé que cette concavité, c'est donc une pierre recourbée. Ça fait allusion, si vous voulez, aux circonvolutions, en quelque sorte, du cerveau extrêmement rusé et retors de Prométhée. Alors là, pour en revenir à l'art, Gustave Moreau s'est surtout intéressé à nous montrer le titan athlétique et puis son regard inflexible.
Voilà, qui voit bien au-delà parce qu'il n'a pas l'air de beaucoup souffrir.
Hein, non, il a l'air de dominer totalement sa souffrance. Si au contraire on prend Titien ou Rubens, alors là, il est complètement abattu par terre et avec des aigles qui lui dévorent le foie. Cette fois-ci, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus douloureux. Mais ça n'est pas la seule scène qui a été illustrée. Nous avons aussi des artistes peut-être moins connus, comme Yann Cossier, qui nous ont montré Prométhée en train de dérober le feu. Alors
voilà.
Ça se passe en plein ciel, puisqu'il dérobe le feu du char du soleil. Et nous avons Grippenkerl, qui nous a représenté Héraclès en train de délivrer Prométhée. Mais il ne le délivre pas tout à fait, c'est-à-dire il va l'enlever de sa montagne, mais Zeus l'oblige à porter un lien symbolique, hein, soit une couronne en osier, soit un petit anneau sur lequel il y a une chaîne quand même pour montrer qu'il reste toujours enchaîné.
Monsieur Mahé, et dans la littérature, alors, quelle est l'œuvre qui vous paraît la plus brillante de Prométhée ?
Bien sûr, on pense aux classiques grecs, mais maintenant, s'il faut dire des choses modernes, il y en a...
Chez Goethe, par exemple ?
Chez Goethe, eh bien, c'est un des premiers poèmes de jeunesse, enfin pas de jeunesse, mais de la période... qu'on appelle Sturm und Drang, dans laquelle il écrit un poème qui termine par un défi lancé à Zeus. Il dit à Zeus, je suis là, hein, je pose pour toi, forme les hommes à mon image, une race qui me ressemble, pour travailler, pour pleurer, pour souffrir et pour ne pas te respecter comme moi. Voilà ce que dit Prométhée.
Aussi, nous avons dans notre studio Nicolas Lannet-Planté qui souhaite, lui, vous poser une question plus générale. Alors Nicolas, je vous en prie, posez votre question.
Bonjour, ça rejoint un peu en fait ce que vous venez de dire, c'est plus littéraire et philosophique. En partant du principe de Nietzsche selon lequel Prométhée est un artiste créateur, appliqueriez-vous encore de nos jours l'image de cet artiste contemporain révolté et prométhéen ?
Je pense, alors en effet, on est tout à fait dans la ligne que donne Goethe dans son poème et très vraisemblablement Nietzsche le connaissait par cœur parce que c'est un des poèmes les plus célèbres de la langue allemande. Alors je dirais en effet qu'il y a dans toute œuvre artistique une part de défi prométhéen, c'est-à-dire Prométhée au fond a dérobé des pouvoirs qui appartenaient aux dieux. Et évidemment, l'artiste se pose en créateur d'une œuvre qui a la même nécessité, la même légitimité. Je veux dire que les créatures des dieux, ça suppose qu'ils leur dérobent certains pouvoirs. Mais je pense que cette interprétation est surtout liée, disons, à l'émancipation de l'individu, je dirais, à partir de l'époque des Lumières et... C'est une interprétation qui est très moderne. Je ne pense pas que Prométhée soit tellement lié à la création, alors peut-être un petit peu du côté grec, puisque c'est lui qui a fabriqué les hommes, mais du côté qui me semble plus archaïque de la légende, qui est le côté du Caucase, non, il n'est pas lié véritablement à la création. Je pense que c'est une interprétation légitime du mythe grec, mais qui est assez récente finalement.
Merci, Monsieur Mahé, de nous avoir éclairé sur ce mythe, dans sa partie caucasienne en tout cas. Mais enfin, vous nous avez aussi beaucoup aidé à comprendre le mythe grec. Je rappelle que vous avez donné plusieurs émissions à Canal Academy, et notamment une sur la transmission des savoirs, transmission orale des savoirs, justement dans cette région du Caucase. On pourra vous écouter avec intérêt. Merci à vous deux, Nicolas et Randolph, et merci à nos auditeurs. À bientôt.
Merci beaucoup.